Qu'est-ce que Jésus a fait au long de cette semaine sainte?
Vue de ma fenêtre, Étienne Dallaire.
Oui, nous connaissons presque par cœur la fin du parcours à partir du jeudi soir, mais avant, les jours qui précèdent. Que fait Jésus? Il a, nous le savons, conscience de ce qui va arriver, car il y a bien longtemps déjà qu'il a dit aux disciples qu'il allait souffrir beaucoup, qu'à Jérusalem il serait trahi par les prêtres et les scribes, qu'il serait condamné à mort. Il sait donc que les jours lui sont comptés. Que fait-il? Eh bien, vraisemblablement, il va comme ramasser l'essentiel de son enseignement pour laisser encore des paroles fortes aux disciples. Et il est finalement du matin au soir, nous disent les évangiles, dans le temple. Il ne s'éloigne plus du temple, de la maison du Père, de sa maison, la même où Marie et Joseph l'avaient retrouvé à 12 ans en train de parler avec les docteurs de la loi. Le temple, c'est sa maison. Le soir, tout simplement, il remontera le mont des Oliviers et ira loger chez son ami Lazare à Béthanie, située non loin de là. Et dès le matin ensuite, il retourne au temple. Il n'est pas forcément évident de placer maintenant les textes des évangiles pour chacun de ces jours. Nous essaierons de le faire en nous appuyant sur le travail du père Lagrange, père dominicain, hautement qualifié pour le faire. En ce jour du lundi saint, le père Lagrange place simplement deux textes. Le premier en Marc 11, verset 12. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il vint voir si par hasard il s'y trouverait quelque chose. Étant venu près de lui, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas le temps des figues. Et prenant la parole, il lui dit que jamais plus personne ne mange de toi un fruit. Et ses disciples l'entendirent. Texte énigmatique, et dont la fin et la substance seront au programme de demain mardi saint. Le second texte, placé en ce lundi saint par le père Lagrange, décrit les conciliabules pour perdre Jésus. L'étau se resserre, Jésus est là à Jérusalem à portée de leurs mains, le moment va être favorable pour l'arrêter et essayer de le faire périr. Et le mardi saint, eh bien, en passant, de bonne heure, ils virent le figuier desséché depuis la racine. Et Pierre, se souvenant, lui dit: Rabbi, vois le figuier que tu as maudit et desséché. Je me suis longtemps interrogé sur ce passage. Est-ce que Jésus, tout à coup, nous fait un caprice, voulant manger des figues alors que ça n'est pas la saison, comme le dit le texte lui-même? Pourquoi vient-il demander des figues au figuier à ce moment-là? Ou bien l'anxiété est-elle en train de monter en lui au point qu'elle lui fait quelque peu perdre le sens des choses? Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, je pense que là, nous avons quelque chose de très fort, placé en début de semaine sainte. Celui qui est créature de Dieu, comme le figuier, comme nous d'ailleurs, nous devons savoir répondre à la volonté de Dieu sur l'instant. Et quand Dieu passe chercher des fruits, c'est que nous pouvons lui donner des fruits. Et si nous refusons, comme en disant en quelque sorte « Je regrette, ce n'est pas le moment, ce n'est pas la saison, il faudra passer plus tard », c'est que nous sommes tombés dans une espèce de fonctionnariat de la foi. Alors cette attitude légaliste, finalement, nous condamne à être desséchés, nous condamne à ne plus porter de fruits. Nous nous condamnons nous-mêmes à la stérilité si nous ne conservons pas cette souplesse à la volonté de Dieu, cette obéissance totalement irrationnelle, il faut bien le dire. Cet épisode prend place donc tout au début de la semaine sainte, car les apôtres vont être effectivement surpris par ce qui va arriver. Ils vont être déboussolés. Il va leur falloir cette souplesse pour revenir dans le chemin que Dieu leur trace et porter du fruit. Ces dernières heures, ces derniers jours Voilà que Jésus les donne totalement du matin au soir à enseigner le peuple. C'est sans doute là qu'il faut placer les enseignements essentiels de Jésus, comme la parabole du fils prodigue, comme la parabole des mauvais vignerons et d'autres interventions très fortes de Jésus, notamment pour défendre contre les Sadducéens la résurrection. En ce mercredi saint, le père Lagrange a retenu un seul passage, le complot de Judas. C'est très fort comme événement que Jésus ait été encore trahi par les instances religieuses, soit qu'il ait été trahi par certains scribes, soit, mais qu'il ait été trahi par l'un de ceux qu'il avait lui-même choisi. Est-ce que cela signifie que Jésus, lorsqu'il a choisi, n'a pas eu de discernement et a pris une brebis galeuse? Ou bien est-ce que cela signifie que il devait y en avoir un, selon les Écritures? Ou bien est-ce que cela signifie encore que l'homme est versatile dans son cœur? Nous voilà parvenus au Jeudi Saint. Retenons tout d'abord le repas pascal. Jésus tient à célébrer la Pâque avec ses disciples. Il tient à célébrer ce repas au cours duquel on se souvient de la sortie d'Égypte, de la libération de l'esclavage, mais non seulement on s'en souvient, mais la grâce est réactualisée. On est véritablement libéré en ce soir-là, et d'ailleurs tous les gestes de la liturgie de la Pâque juive le montrent. Voilà pourquoi lorsque Jésus va au cours de ce repas partager le pain, en disant « Ceci est mon corps », partager la coupe de Pâques en disant « Ceci est mon sang », il institue une célébration qui permettra aux disciples par la suite, pour les siècles à venir, de réactualiser cette même grâce à chaque célébration. Autre événement très important, aussi en ce Jeudi Saint, c'est le lavement des pieds. À quelques heures d'être arrêté, Jésus donne ce signe tellement fort qu'il est venu pour servir et non pas pour être servi, et il demande aux apôtres de faire de même. Et puis, ensuite, autre événement important de ce Jeudi Saint, c'est le jardin de Gethsémani, c'est l'angoisse de Jésus alors que la nuit est venue. Jésus est arrêté. Pendant ce temps, celui qu'il a choisi pour être la tête de l'Église, celui-là va renier. Pierre va chuter à 3 reprises. Et voilà l'image qu'il nous reste au soir de ce Jeudi Saint. Jésus trahi, arrêté injustement, et pendant ce temps, l'Église, en la personne de Pierre, qui montre une telle vulnérabilité, une telle faiblesse qu'elle déchoit totalement et ne répond pas à ce que Jésus attendait d'elle. Tout va très vite, c'est l'impression que nous avons en ce Vendredi Saint, car tout le monde est pressé, le Sanhédrin est pressé de pouvoir faire condamner Jésus, Ponce Pilate est pressé parce que la foule augmente sa pression. L'Évangile nous dit que dès le matin, quand il fit jour, le conseil des anciens du peuple se réunit, grands prêtres et scribes, et l'amenèrent devant le Sanhédrin. La question fondamentale qui est posée à Jésus, es-tu le Fils de Dieu? Es-tu de nature divine? Ce à quoi Jésus répondra, c'est vous qui dites que je le suis. Caïphe crie au blasphème, et de fait, pour un juif, il n'y a pas de pire blasphème qu'un homme prétende être Dieu. C'est l'idolâtrie dans sa version la plus extrême. Mais voilà, le Sanhédrin, qui a autorité sur toutes les questions concernant la Torah et ses applications, n'a pas autorité pour mettre un homme à mort. Voilà pourquoi Jésus sera transféré devant le gouverneur romain Ponce Pilate. Le gouverneur romain réside habituellement à Césarée, au bord de la mer, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que si jamais des événements importants tournent mal, il a plus vite fait de réembarquer pour rentrer à la maison. Et puis, Césarée est une ville entièrement romaine, construite par Hérode le Grand, mais avec son amphithéâtre, avec son théâtre, avec ses thermes. Et puis ensuite, il est loin aussi de Jérusalem. Jérusalem, ville très bruyante et surtout très pieuse. Pour toutes ces raisons, donc, le gouverneur romain ne réside pas à Jérusalem. Mais il est là, à Jérusalem, pour les grands moments et notamment pour les fêtes de pèlerinage. Non pas par dévotion, mais parce que la foule y est nombreuse et que l'occasion est propice, peut-être, à provoquer des soulèvements ou des manifestations. Le procès de Jésus nous montre un Pilate hésitant, cherchant même à un moment donné à sauver la vie de Jésus lorsqu'il le condamne à être flagellé. Car en effet, la flagellation était une condamnation en soi, mais la pression populaire est trop forte et pour apaiser la situation, Pilate leur livre finalement Jésus. Quelques bousculades au milieu de la foule et puis voilà déjà Jésus cloué sur cette poutre juste au pied des remparts de Jérusalem. Comme lors de la première Pâque en Égypte, l'agneau a été immolé, son sang a été versé aux portes de la ville qui désormais sera comme protégée car lorsque l'ange d'extermination viendra, il épargnera, c'est le sens fort de Pâques, tous ceux qui habitent dans la maison. On est en droit de se poser une multitude de questions par rapport à ces événements, mais gardons cette parole même de Jésus, « Ma vie, on ne me la prend pas, je la donne librement. »
Vue de ma fenêtre, Étienne Dallaire.